on tisse des liens entre les générations. On tente aussi de résoudre certains problèmes de logement. D'une pierre deux coups donc, avec le dispositif TIS-Age au pluriel. La ville de Châtelain s'associe avec l'association Elle pour rompre l'isolement et la solitude des personnes âgées, avec à la clé une offre d'hébergement abordable pour les jeunes. On a déjà évoqué ce dispositif tissage de cohabitation intergénérationnelle sur nos ondes. Cette fois-ci, on vous en reparle parce que l'association Elle propose des permanences pour informer ou encore rassurer d'éventuelles personnes intéressées. Marie-Pierre Le Goff, adjointe aux affaires sociales et aux solidarités de Châtelain, et Johan Calvez, animateur socio-éducatif de l'association Elle, explique à Morgane Bréfort le fonctionnement de ces permanences.
À Châtelain, donc, nous nous sommes rendus compte, et ce n'est pas un secret, c'est un peu une situation globale dans le territoire, qu'il y a un manque de logements. La situation est tendue au niveau des logements, de toutes les catégories, petits logements, grands logements, etc. Sur Châtelain, il y a des établissements scolaires qui donc ont des étudiants qui sont en recherche de logement et qui sont en difficulté pour être hébergés. Il y a ce point-là et il y a également aussi le souhait de rompre l'isolement des personnes âgées qui se retrouvent seules dans leur habitation, une habitation devenue grande pour certaines personnes, puisque des maisons individuelles et les familles, les enfants sont partis travailler, vivre ailleurs. Donc ce sont des personnes qui peuvent se retrouver seules du fait de leur âge. Il s'agit là donc aussi d'essayer de lutter contre la précarité de ces personnes-là, et d'un côté, et aussi de lutter contre l'isolement des jeunes qui viennent soit en qualité d'étudiants à Châtelain, ou même en qualité de jeunes actifs, de jeunes qui rentrent dans la vie active, qui doivent travailler, en même temps trouver un logement dans une région, dans un secteur qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est une possibilité, par le biais de cette association et de ce dispositif, de rassembler deux générations de personnes.
On avait déjà évoqué les objectifs en fait, du dispositif tissage récemment. Si on pouvait cibler sur les objectifs concrets des permanences.
L'objectif concret des permanences est maintenant de recevoir, pour M. Johan Calvez, de recevoir des personnes intéressées par le dispositif, aussi bien des personnes qui souhaitent accueillir que des personnes qui souhaiteraient accueillir. Des personnes qui souhaiteraient accueillir, qui ont eu connaissance du déploiement de ce dispositif à Châtelain par le biais de la presse et des réseaux radio, etc., mais qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour avoir des informations, soit au moment de la présentation à la salle des fêtes ou lors de rencontres qui ont été prévues, qui n'ont pas pu avoir lieu. Voilà. Cette permanence, maintenant, donc, vise à recevoir des personnes accueillantes et des personnes accueillies.
Mais concrètement, si quelqu'un est intéressé et qui vient à cette permanence, comment ça se passe après ?
Dans un premier temps, c'est vrai que le bureau du CIOS, là, donc on est aux 40 Grand Rue, c'est comme ça, je crois, en plein centre-ville de Châtelain. C'est un lieu accessible, donc ça, c'est important. Mais c'est aussi un lieu à partir duquel, moi, je peux me déplacer. C'est-à-dire que je suis là un mardi sur deux, les semaines impaires. En gros, sur une fourchette de 14h à 17h30 à peu près. Mais vous voyez, je peux me déplacer chez un hébergeur, enfin quelqu'un qui aura un souhait d'héberger un jeune, je vais aller chez lui. Voilà, parce qu'elle n'a pas forcément, il ou elle n'a pas forcément la possibilité de se déplacer. Et puis on voit directement, moi je vois concrètement si le logement est adapté, si la personne a bien compris le projet et quelles sont ses attentes. Et puis avant tout, on fait aussi connaissance. C'est important de voir un peu quels sont les centres d'intérêt de la personne et puis voir si elle préférerait héberger un jeune homme, une jeune femme, si elle a des animaux. On pense à des allergies pour des hébergés. Voilà.
Donc dans un premier temps, ça sera un temps d'échange. Et après, il y aura, si, imaginons, ça se passe assez bien, un temps où la personne va quand même devoir s'inscrire. Comment ça se passe ?
Cette première rencontre vaut pour inscription. Moi, je fais les deux en même temps. Donc, moi, j'ai un ordinateur portable. Et puis, que je me déplace chez la personne ou que ce soit un jeune qui vienne me rencontrer ici au bureau du CIOS, on fait l'inscription. Du coup, cette personne-là est inscrite. Ça se fait d'ailleurs gratuitement, puisque les premiers frais interviennent juste lorsque l'on va contractualiser réellement un contrat de cohabitation. Et là, il y a une adhésion de 30 euros à prendre. Ce sont les premiers frais. Le collègue n'a pas évoqué tout à l'heure le projet dans son entièreté, puisqu'il y a également de l'hébergement temporaire chez l'habitant. Et là, on s'adresse à des hébergeurs qui comment dire, on n'a pas la contrainte de l'âge comme sur la cohabitation intergénérationnelle, qui là est encadrée par la loi Elan. Et donc cette loi-là impose que pour que ce soit une cohabitation intergénérationnelle, il faut que l'hébergeur ait au minimum 60 ans. Dans l'hébergement temporaire, on est hors loi Elan, et donc du coup, on n'a pas cette contrainte-là. Une famille, un couple qui aurait une chambre de disponible et qui aurait moins de 60 ans pourrait très bien s'inscrire dans ce dispositif.
Pour l'hébergement temporaire, c'est un peu comme un Airbnb ou...
C'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais on peut se permettre une certaine comparaison. Mais d'ailleurs, quand je vais inscrire un jeune, je vais lui préciser, attention, ça n'est pas un Airbnb. Ça se veut aussi souple, ça c'est important. Mais il y a vraiment la notion de solidarité, de partage, de convivialité. Si un jeune rentre dans la chambre qu'on lui a mis à disposition, puis quoi qu'il s'enferme et qu'il est sur Internet toute la nuit ou toute la soirée et qu'il n'y a aucun lien, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, d'ailleurs, oui, là, il peut aller sur BNB. Ou alors une personne, un hébergeur, un jeune ou moins jeune, qui me dirait, bah ouais, mais moi, c'est pas assez rentable, votre histoire. Ah bah, dans ce cas-là, bah, c'est pas grave, on va juste pas faire affaire ensemble. Et puis, vous pouvez continuer d'aller sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, notre dispositif n'est pas un dispositif mercantile et à visée lucrative. Voilà. Il faut vraiment différencier ces deux types de modalités hein, d'hébergement.
Donc en ce moment, il n'y a pas de cohabitation intergénérationnelle à Châteaulin, c'est bien ça ?
Alors, pas encore, mais vous voyez, hier, nous étions lundi, j'ai été contacté par une personne qui habite dans une commune limitrophe de Châteaulin. Et c'est une personne qui a passé 80 ans, je crois, hein, et qui a une chambre chez elle et qui souhaiterait... éventuellement accueillir un jeune, et en tout cas, premièrement, avoir un petit peu plus d'informations sur notre dispositif. Donc, comme nous sommes mardi et que c'est ma journée à Châteaulin, j'ai prévu d'aller la rencontrer tout à l'heure vers 17-18 heures en fin de journée.
Donc même des communes limitrophes, comme vous dites, hors de Châteaulin, des personnes peuvent venir aux permanences, c'est pas réservé aux châteaulinois.
Tout à fait. D'ailleurs, ici, cette personne a eu l'information en venant faire ses courses à Châteaulin. Je ne sais plus si c'était chez le coiffeur ou dans un commerce de proximité et dans lequel j'étais passé auparavant mettre des affiches.
À terme, quels seraient les objectifs de la ville de Châteaulin dans ce dispositif tissage?
Ben, les objectifs de la ville de Châteaulin dans ce dispositif est de donner satisfaction à le plus grand nombre possible de personnes qui sont en difficulté de logement d'une part et de rompre la solitude aussi de personnes âgées. Voilà, le dispositif et le but est celui-là. Parce qu'il n'y a pas, d'autre but que de rompre l'isolement et d'aider les personnes à se loger. De notre point de vue, c'est tout ce que nous attendons, puisque ce que je voudrais ajouter, et plutôt compléter, comme l'a dit M. Calvez tout à l'heure, il n'y a pas d'aspect financier vraiment en jeu, c'est plutôt une contribution de la part de la personne qui arrive. Hein, voilà. Il n'y a pas d'aspect financier. Si on recherche un aspect financier, ce n'est pas ce dispositif qui convient.
Par contre, si je peux rajouter, l'hébergement temporaire peut permettre de participer à l'attractivité du territoire et permettre aussi de soutenir l'emploi en ruralité. On pense notamment aux jeunes qui débarquent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui souhaiteraient ou qui ont trouvé un travail en intérim ou autre, ou pour un travail saisonnier, qui n'arrivent pas à se loger. Bon, ça peut être un premier temps, un hébergement temporaire. C'est, vous savez, le jeune doit obligatoirement avoir une adresse principale. Ça peut être l'adresse de ses parents ou un autre logement si il a un double emploi, vous voyez, ou un temps de formation. Mais le temps d'un travail saisonnier, par exemple. On pourrait très bien imaginer qu'un senior ou un habitant de Châteaulin héberge ce jeune-là de manière temporaire. Il va pouvoir travailler et faire une recherche d'hébergement aussi pendant ce temps-là.
Pour l'hébergement temporaire, est-ce que vous pouvez peut-être préciser, est-ce qu'il y a une marge de prix ou est-ce que c'est l'hébergeur qui fixe ?
Non. Alors c'est à chaque fois, si vous voulez, l'association, elle, via le dispositif, encadre, accompagne, met en place organise les mises en relation des personnes. Et une fois qu'elles sont d'accord, qu'on a l'aval des deux parties, là, du coup, on contractualise. Donc, c'est bien encadré. Sur la cohabitation intergénérationnelle, c'est une participation financière au mois, tandis que sur l'hébergement temporaire, c'est une facturation à la nuitée. Donc, c'est vraiment très, très souple, à la fois pour le jeune et pour l'hébergeur. Mais à chaque fois, l'association est là pour accompagner. Et d'ailleurs, pouvoir faire aussi de la médiation si il y avait quelque chose qui était mal compris et pour éviter que ça prenne des proportions qui n'ont pas lieu d'être.
Est-ce que vous avez une idée des craintes ou peut-être à l'opposé des attentes des personnes qui souhaiteraient participer à ce dispositif et qui n'ont pas encore franchi le cap?
Alors il y a des personnes qui n'ont pas eu, c'est vrai, beaucoup de jeunes depuis longtemps à la maison. Parce que les enfants sont grands, ça fait longtemps qu'ils sont partis, parce qu'ils vivent seuls. Et ils se font peut-être une idée qui n'est pas toujours celle de la réalité, hein, que de vivre avec quelqu'un. Et donc du coup, ça peut déranger certaines habitudes. Donc moi, je suis là aussi pour arrondir un peu les angles et pour prévenir à la fois le jeune et de prévenir aussi l'hébergeur que, bon, bah oui, effectivement, il faudra peut-être faire quelques concessions l'un et l'autre pour que ce temps de vie partagée se passe au mieux. Donc ça, c'est une des craintes. D'autres personnes me disent, mais oui, mais Johan, moi, si cet été, comment je fais pour héberger mes petits-enfants, là, quand ils viennent, ou mes enfants? Alors ça, c'est tout à fait légitime comme question. Et donc la réponse est que si vous souhaitez nous indiquer que de juillet à août, vous n'êtes pas disponible, eh ben, on l'indique si vous voulez. C'est pour ça que c'est important d'aller rencontrer les gens et faire cette inscription et connaître vraiment quelles sont leurs réelles disposition, disponibilité.
Une cohabitation se passe mal, par exemple. Est-ce qu'à tout moment, on peut l'arrêter, même si le premier mois n'est pas fini?
Alors, sur la cohabitation intergénérationnelle, il y a un mois de préavis. Sur l'hébergement temporaire, il n'y a qu'une nuit de préavis. Dans tous les cas, c'est important de passer par nous, par l'association. Ça s'est déjà présenté sur Brest, oui. Du coup, l'hébergeur n'était pas satisfait ou n'avait pas très bien compris non plus le rôle du jeune. Le jeune était un petit peu, trop refermé, je pense, mais aussi en situation d'étude. Donc c'est vrai qu'il dit étude, par moment, bah, on n'est pas disponible trop pour échanger avec la personne. Mais en tout cas, les deux personnes ont souhaité mettre fin. On n'a pas attendu le mois de préavis parce que, du coup, je me suis rendu sur place chez la personne. On a discuté tous les trois et on a mis carte sur table, en fait. Et on s'est assuré aussi que la jeune avait quelque chose d'autre pour rebondir, un hébergement aussi, ça c'est important. Sinon, c'est pour ça qu'il y a ce mois de préavis.
Oui, donc ça c'est assez rassurant en fait pour les personnes qui voudraient se lancer.
Notre crainte souvent c'est, mais oui, mais moi j'ai pas de salle de bain, j'ai pas envie de partager mes sanitaires. Ce qu'on peut tout à fait comprendre parce que ça touche à l'intime. Mais parfois, comme a dit Madame Le Goff tout à l'heure, certaines personnes âgées ont tout un étage dans lequel elles ne peuvent plus accéder ou n'y vont très peu. Et du coup, ça peut être mis à disposition du jeune, mais il ne faut pas que ce soit un frein. Deuxième frein aussi repéré, le fait d'être locataire. Être locataire, ça n'empêche pas de pouvoir faire de la cohabitation intergénérationnelle. Le devoir du locataire est de prévenir son propriétaire. Voilà, donc nous, on accompagne aussi pour faire cette démarche-là. La location n'est pas un frein.
Et les permanences de ce dispositif TIS Âge, c'est les mardis après-midi des semaines impaires aux 40 Grand Rue de Châtelain de 14h à 17h30. Vous pouvez contacter l'association et aussi le site internet L comme des ailes au pluriel.bzh ou celui de la ville de Châtelain, châtelain.fr.